Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir la parole de l'Éternel dans l'évangile de Marc, le chapitre numéro 8. Du verset 1er au verset 21. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ? 7, dirent-ils. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez pas et ne comprenez pas encore. Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, dirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Jusqu'ici la lecture du texte de la prédication de ce matin.
La Bible sans le Saint-Esprit, c'est comme une abondance de nourriture, un banquet devant nous, sans bouche pour y goûter. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le vôtre, ce matin, pour que nous puissions être saisis par ce banquet qu'est la parole de Dieu. Nous continuons, comme Loïc l'a dit tout à l'heure, dans le journal de Pierre, écrit par Marc. Et la dernière fois, nous avions parlé... Nous avions parlé d'une femme païenne qui était venue vers Jésus et qui était prête à manger uniquement les miettes tombées de la table. Souvenez de cette histoire ? Eh bien, dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus ne donne pas seulement des miettes, mais nourrit une foule de 4000 personnes dans un contexte païen. Et nous nous arrêterons plus particulièrement sur les attitudes de Jésus qui va nous aider à saisir cette notion de compassion. Les attitudes de Jésus nous enseignent la compassion. Premièrement, nous verrons que Jésus a compassion de la foule. Ensuite, nous verrons que Jésus soupire face aux pharisiens qui n'ont pas compassion. Et enfin, Jésus recommande aux disciples de s'éloigner de ceux qui n'ont pas compassion, ou en tout cas de ne pas se laisser enseigner par eux. En commençant par le premier point, Jésus a compassion, et relisons les versets 1 à 10 pour nous mettre bien dans le contexte. Donc Marc 8, et nous revenons au verset 1 pour aller jusqu'au verset 10. En ces temps-là, ou en ces jours-là, il est dans la région de la Décapole, où il a rencontré cette femme, puis il y a une guérison d'ailleurs d'un homme, c'est la chose qu'on a vu aussi par la suite, qui n'arrivait pas à entendre ni parler, puis il avait dit « Epaphata », vous vous souvenez, ça c'est dans le contexte d'un contexte païen. Continuons. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux, à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors, il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons. Et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Dalmanuta. J'ai compassion. Jésus exprime ce qu'il a sur le cœur. Alors, c'est pas la première fois que Jésus manifeste ou a de la compassion. C'est vrai, c'est pas la première fois que Jésus a de la compassion. Mais c'est la première et la seule fois où il nous est rapporté qu'il le dit de lui-même. J'ai compassion. C'est la seule fois, c'est la première et la seule fois où il nous est rapporté qu'il le dit de lui-même. Alors c'est vrai, hein, comme je vous l'ai dit, nous voyons que Jésus a compassion. Il a compassion, par exemple, des foules sans berger. Et cela le pousse à les enseigner. Hein, on a vu ça dans Marc 6, 34 ou Matthieu 9, 36. Jésus a compassion face à la maladie. Cela le pousse à guérir. Par exemple, dans Matthieu 20, 34, il est dit « Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. » Donc il a la compassion avec les 2 aveugles de Jéricho ici. Ou devant un lépreux. Souvenez peut-être de celui qui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Marc 1, 40. Ou quand il rencontre une veuve qui vient de perdre son fils, il est dit « Le Seigneur la vit et eut compassion d'elle. » Et lui dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme « Je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Non seulement Jésus a eu de la compassion, mais Jésus a parlé de la compassion. Quand il parle du roi qui remet sa dette au serviteur qui lui devait des milliards, il est dit « Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette » dans Matthieu 18. Ou quand il parle du Samaritain qui va prendre soin de son prochain. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, d'un homme blessé gravement. Il le vit et en eut compassion. Ah voilà, vous suivez bien, c'est bien. Cette compassion que le sacrificateur et le Lévite qui sont passés avant le Samaritain n'ont pas eue face à cet homme gravement blessé. Et Jésus, quand il parle du père prodigue qui accueille son fils quand il revient, il est écrit « Il se leva et alla vers son père, ce fils qui revient. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Luc 15. Jésus est rempli de compassion qui se voit. Puisque ceux qui écrivent les actions de Jésus, ils sont inspirés par l'Esprit, donc ce qu'ils disent est vrai, c'est vrai, mais ils disent que sa compassion le pousse à enseigner, à guérir et même à ressusciter. Jésus est rempli d'une compassion qui se voit et qui est décrite. Jésus parle de compassion, il enseigne la compassion pour celui qui remet la dette, qui prend soin de son prochain, qui accueille celui qui revient. Jésus parle de compassion, il enseigne la compassion. C'est tellement important, fondamental. Et ici, dans ce texte de Marc, eh bien, il dit, non seulement il vit, non seulement il l'enseigne, mais il dit qu'il a compassion. Et cela me fait penser à un texte où l'Éternel lui-même dit qu'il a compassion. C'est pas pour rien que Jésus le dit ici. Il le dit dans un contexte d'ailleurs où Dieu nourrissait son peuple. Enfin, Jésus a nourri le peuple, et le contexte dans lequel Dieu dit qu'il est compatissant, c'est lorsqu'il nourrissait son peuple avec la manne. Il y a beaucoup de liens en fait ici. Hein, dans Exode 34, verset 6, il est dit « L'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Ce Dieu qui dit être compatissant est celui qui nourrit son peuple dans le désert ou dans un lieu désert. C'est exactement ce que Jésus a fait avec la foule dans un lieu désert, déjà deux fois. Et là, en réfléchissant un peu, on peut commencer à se dire, mais la compassion, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. La compassion, c'est une caractéristique unique de notre Dieu. Cherchez tous les dieux que vous pouvez imaginer ou connaître dans le monde que l'homme a créé, vous n'en trouverez pas un qui a la compassion de Dieu. Pas un. La compassion est une caractéristique unique de notre Dieu, et aucun Dieu créé par les hommes compatisse comme l'Éternel, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc cette compassion doit nous pousser à aller demander à Dieu d'agir dans nos difficultés. Il est compatissant. Il est compatissant. Et qu'est-ce qui motive la compassion de Jésus face à cette foule dans Marc 8? Eh bien, c'est intéressant parce que c'est le besoin physique de ses auditeurs. Il est intéressant de noter que la première multiplication des pains qu'on a déjà vue ensemble dans Marc 6, il est parlé de la compassion de Jésus, mais c'était en lien avec une foule qui n'avait pas de berger. Ici, Jésus a clairement compassion pour les besoins physiques de ses auditeurs, qu'il l'écoute, tenez-vous bien, depuis 3 jours. Ça fait 3 jours qu'ils sont en train d'écouter Jésus et ils n'ont pas mangé pendant ces 3 jours. Ils se trouvent dans un lieu désert et des gens viennent même de loin. Moi, j'ai trouvé quand même quelque chose d'assez étonnant. Je ne sais pas vous, mais je vous le partage, ça peut vous faire réfléchir aussi. Lors de la première multiplication des pains, les disciples n'ont pas attendu plusieurs jours pour dire à Jésus de renvoyer la foule pour qu'ils aillent manger. Pourquoi, ici, ils attendent 3 jours, et même, c'est pas eux qui demandent quoi que ce soit. C'est Jésus qui leur parle du besoin de nourriture. Pourquoi les disciples n'ont pas attendu alors que c'était à la fin d'une journée, ils voulaient déjà les renvoyer pour manger. Puis ici, ça fait 3 jours, et ils n'ont rien demandé. Le contexte me pousse à penser que c'est parce que cette foule est composée majoritairement de païens. Les disciples n'ont pas vraiment d'égard pour les païens. Jésus n'a-t-il pas dit, quelque temps plus tôt, qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens? Mais Jésus veut enseigner que ce qu'il a dit à cette femme n'était pas en lien avec la mission des disciples, mais était en lien avec le désir de faire manifester la foi de cette femme. Jésus va ici donner du pain à des milliers de païens pour enseigner à ses disciples que les païens qui croient font également partie du royaume. D'ailleurs, ils sont restés 3 jours à écouter son enseignement, tellement concentrés et avides de l'entendre. Ils ont quelque part laissé de côté des besoins essentiels pour manger les paroles de Jésus. Et ici aussi, encore une autre petite remarque, c'est que Jésus, regardez au verset 2 hein, et 3, Jésus ne pose pas de questions à ses disciples. Il leur dit simplement qu'il a compassion. Il veut que ses disciples apprennent la compassion envers les païens. C'est pour ça qu'il leur dit « J'ai compassion de cette foule ». Il veut que les disciples apprennent la compassion envers les païens. Est-ce que vous connaissez un homme de Dieu qui a dû apprendre la compassion pour les païens? C'est vrai, Pierre a dû apprendre, et évidemment Jonas. Pierre, il a eu un rêve qui l'a aidé à entrer dans ce cheminement, c'est vrai. Mais il y a tout un livre dans l'Ancien Testament qui est le livre de Jonas, dont le centre, l'idée principale, on l'a vu ensemble puisqu'on a fait cette série ensemble, est en fait la compassion de Dieu que le prophète doit apprendre pour les païens. La compassion de Dieu envers les païens que son prophète avait vraiment du mal à accepter. Même le livre se termine sur une question qui en fait le pousse à avoir cette compassion et qui est la même question qui est face aux disciples qui sont juifs comme Jonas. Jésus, face à cette foule de païens, dit à ses disciples qu'il en a compassion en parlant de leurs besoins. Et là, les disciples qui eux n'ont pas compassion, ils répondent à une question que Jésus n'a pas posée et ils le mettent même au défi. Mais comment on va pouvoir les nourrir? Pour toute réponse, Jésus pose une question que les disciples ont déjà entendue. Ça, c'est la pédagogie de Jésus-Christ. Combien avez-vous de pain? Oh là, ping, on a déjà entendu cette phrase. On l'a déjà entendue une fois. C'est normal que Jésus pose cette question. Il l'a fait exprès. Et Jésus va nourrir 4000 personnes et il restera 7 corbeilles pleines de pain. Lors de la première multiplication, dans un contexte juif, il restait combien de paniers? 12. On l'a lu dans le texte avant, Jésus a posé la question, les disciples ont répondu, vous avez bien écouté, parfait, 12. Et je pense qu'on peut quand même faire un lien, puisque c'était dans un contexte juif, le chiffre 12 a une signification. On parle de toutes les tribus, de la totalité du peuple de Dieu. Et là, c'était des petits paniers pique-niques, 12 petits paniers pique-niques. Ici, ce sont des corbeilles. Les 7 corbeilles qui restent, c'est des corbeilles d'une grandeur certaine, puisque c'est le même type de corbeille qu'on a utilisé pour faire descendre Paul des murs de Damas quand il a fui. Ici, il reste 7 paniers. Ce chiffre 7 est un chiffre de plénitude. Donc, c'est cette notion de la totalité des païens qui aussi reçoivent du pain de Christ. Okay. Nous pouvons apprendre plusieurs choses de cette multiplication des pains ici. Premièrement, Jésus vit pleinement une caractéristique unique de Dieu dans la Bible, la compassion. La compassion qui devrait tous nous donner envie d'aller vers Jésus. Le fait de savoir que Jésus est compatissant est un gage d'accueil. Deuxième élément, Jésus a de la nourriture pour tous les hommes. Et il n'en manque jamais. Il n'est pas possible d'épuiser les réserves. Pas possible. Pour les Juifs, 12 pour dire, voilà, il y a une quantité pour tout le peuple, 7 pour dire la plénitude pour tous ceux qui viennent à lui. Cela devrait nous pousser à nous nourrir aux enseignements de Jésus qui ne tariront jamais. Vous pouvez aller manger, manger, manger et il y en aura toujours. Toujours. Ça va jamais manquer. Ensuite, si Jésus aime le peuple qu'il rachète de façon particulière, il aime tout homme et femme d'une manière parfaite et nourrit ceux qui viennent à lui. Ça, c'est un élément important qu'on voit dans ce texte ici. Et nous pouvons comprendre deux choses de cette remarque que je soulève ici. Premièrement, c'est que nous avons le privilège à la suite de notre maître d'aimer tout le monde. Nous avons ce privilège à la suite de notre maître d'aimer tout le monde. Mais nous n'avons pas à chercher à nourrir le monde entier. Vous savez, Jésus n'est pas allé dans le monde entier avec son petit panier du pain à tout le monde. Il l'a donné à ceux qui sont venus à lui, à ceux qui étaient avec lui. Donc nous sommes appelés à prendre soin, à aimer tous ceux qui sont autour de nous, que Dieu place sur notre route, tout en aimant de façon particulière ceux qui font partie du même royaume que nous. Mais voilà, des personnes ne veulent pas que Dieu ait de la compassion pour les païens. Ils surviennent, ils viennent confronter Jésus. Et pour notre deuxième point, Jésus n'est plus face à une foule, mais face aux pharisiens. Jésus ne va pas dire ici qu'il a compassion, il va soupirer. Lisons les versets 11 à 13. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. On va réfléchir tout d'abord aux raisons extérieures de ce profond soupir de Jésus, puis nous réfléchirons aussi à des raisons intérieures de ce soupir. Pour commencer, nous voyons clairement les intentions des pharisiens dans le texte. Oui, c'est assez clair, les intentions qui sont données ici. Ils viennent pour éprouver Jésus. Donc leurs intentions n'est pas remplies de compassion, ni même de bienveillance. Ils veulent piéger Jésus. Voilà, ça c'est leur objectif, piéger Jésus. Ils ont de mauvaises intentions. Et c'est un premier élément qui fait soupirer Jésus. Ils ont des mauvaises intentions. Et cela fait soupirer Jésus. Ensuite, nous voyons qu'ils sont incrédules. Jésus vient de faire un miracle absolument fantastique par compassion, nourrir 4000 personnes à partir de 7 pains avec 7 corbeilles de reste. En plus, il savait qu'il avait nourri 5000 personnes précédemment et il demande un signe du ciel. Franchement, ça s'appelle de l'incrédulité. On a vraiment l'impression d'un remake du peuple dans le désert après la sortie d'Égypte, où Dieu a fait 10 miracles impressionnants. Il a sorti le peuple d'une manière à bras forts et entendus. Hein, ces textes sont juste impressionnants. Et le peuple est incrédule quand ils doivent entrer dans le pays promis. Pourra-t-on vraiment y entrer? On veut un signe du ciel. C'est comme un dessin humoristique que j'ai vu un jour. On voit un homme qui rencontre un ange éblouissant. Et l'homme dit à l'ange, « Donnez-moi une preuve que Dieu existe. » Non mais allô, comme il dirait. 1 Corinthiens 1, 22 souligne que la recherche de signes est une caractéristique juive. On le voit tout au long de l'histoire et l'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens 1, 22 dit « Les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Donc l'incrédulité, c'est un deuxième élément qui fait soupirer Jésus très profondément, l'incrédulité. Et que demande-t-il à Jésus? Donc un signe venant du ciel. En fait, c'est un piège, et je vais vous l'expliquer. Parce que Jésus a déjà fait des signes venant du ciel. Et même s'il en faisait un qui les impressionnait, il viendrait avec Deutéronome 13, les versets 2 à 6, pour condamner Jésus. Car selon eux, Jésus incite à la rébellion contre Dieu, en ne respectant pas le sabbat par exemple, et se faisant lui-même Dieu, eh bien il pousse les gens à adorer un autre Dieu. Et dans le Deutéronome, il est dit que même si quelqu'un vient faire un signe extraordinaire, mais qu'il vous amène à aller vers un autre Dieu, ben, faut le mettre à mort. Ils agissent mal en faisant semblant d'être honnêtes, les pharisiens ici. C'est ce que l'on appelle, pour avoir un nouveau mot de votre vocabulaire si jamais, de la fourberie. C'est agir mal en faisant semblant d'être honnête. La fourberie. Et la fourberie des pharisiens est un troisième élément qui fait soupirer Jésus. Si nous réfléchissons maintenant aux raisons plus intérieures du soupir de Jésus, nous pouvons aisément penser la tristesse que Jésus a de voir la dureté de cœur des pharisiens. Vous êtes là pour venir donner, pour venir aimer le monde, transmettre cette parole, manifester par des miracles que l'on vient de Dieu, et les personnes en face vous disent « Non mais, faut que tu me montres un signe du ciel. » La tristesse de Jésus face à la dureté du cœur est aussi un élément qui fait soupirer Jésus, j'en suis certain. Et nous voyons également un manque totalement de considération pour les païens. Les juifs pensent que c'était seulement eux qui étaient sauvés. Et ils ont quelque part une allergie pour tout ce qui peut faire croire que Dieu peut sauver d'autres personnes que les juifs. Et vous le voyez même, par exemple, lorsque l'apôtre Paul donne son témoignage dans Actes 22, tout le monde l'écoute jusqu'à ce qu'il dise qu'il était appelé pour annoncer l'évangile aux païens. À ce moment-là, il y a un tumulte. C'est fini. Il y a une allergie à cela. Et voilà pourquoi Matthieu nous rapporte que dans l'entretien que nous étudions ici dans Marc avec les pharisiens, Jésus dira « Une génération mauvaise et adultère cherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Et vous vous souvenez du thème principal du livre de Jonas? La compassion de Dieu pour les païens. Voilà pourquoi Dieu parle, enfin Dieu, c'est Jésus-Christ, hein, parle de Jonas à ces pharisiens. Il ne le fait pas ici dans Marc, il le fait dans Matthieu, mais c'est vraiment cette notion de compassion que Marc, par contre, souligne. Le manque de compassion des pharisiens pour les païens est un cinquième élément qui fait soupirer Jésus. Et Jésus quitte les pharisiens en refusant d'accéder à leurs demandes. Et j'aimerais réfléchir avec vous à quelques éléments que l'on peut apprendre de ce refus de Jésus de faire un signe. Premièrement, Jésus n'a rien besoin de prouver devant les pharisiens, qui sont tous sauf compatissants. Donc ne perdons pas notre temps à vouloir donner des signes du ciel à ceux qui ne cherchent qu'à éprouver et ne sont pas prêts à croire. Ça, c'est un élément qui est très clair aussi dans tout le ministère de Jésus. Et Jésus, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit devant ses pharisiens. Deuxièmement, Jésus n'a pas soif de reconnaissance. Il n'a pas besoin que les pharisiens, les chefs de l'époque le courtisent et lui permettent de se sentir valorisé. Non, parce que Jésus est reconnu par Dieu. Il est reconnu par Dieu, c'est la source de sa reconnaissance. Il n'a donc aucune pression face à ceux qui veulent le piéger. Il connaît sa valeur, il n'a pas besoin que les grands de ce monde lui disent qu'il est bien. Troisième élément, Jésus ne va pas chercher à faire boire un âne qui n'a pas soif. Enfin, c'est l'expression, elle n'est pas dans la Bible, mais on comprend la notion. Jésus ne va pas chercher à faire boire un âne qui n'a pas soif, il ne va pas chercher à prouver la couleur du soleil couchant à un aveugle. Et les pharisiens sont fiers de leur incrédulité. Jésus, que fait-il face à des gens fiers de leur incrédulité? Il soupire. Et il ne donne pas un signe du ciel. Il ne les rejette pas. Celui qui vient à lui, Jean 3, on voit Nicodème, un pharisien qui est vers lui, il n'a pas dit « je ne veux pas te voir ». Mais dans cette attitude que nous voyons ici, Jésus soupire et il part. Et quatrième élément, Jésus n'a pas besoin de répondre à une demande particulière pour que nous l'aimions. Il n'a pas besoin de faire un signe du ciel pour que les pharisiens l'aiment, si vous voulez. Donc Dieu n'a pas besoin de répondre à une demande particulière pour que nous l'aimions. Il n'a pas besoin de répondre à une de mes prières pour que je lui obéisse. Ah tiens, ça va faire penser quelque chose à quelques-uns parmi nous. Un Seigneur, si tu me fais réussir mes examens, je te donne tout le reste de ma vie. Ouais, et quand les examens seront passés, ça sera quoi la prochaine demande? Jésus a déjà donné sa vie pour celui qui est à lui. Il a du pain en abondance. Est-ce insuffisant ou doit-il encore demander un signe du ciel pour vivre pour lui? Ne soyons pas comme des pharisiens incrédules. Venons à Jésus, aimons-le, servons-le, sans exiger un signe du ciel. Il peut le faire, et je souhaite que vous réussissiez vos examens, évidemment. Mais ce n'est pas de ça que dépend l'engagement pour Dieu. Et voilà que Jésus va dans la barque avec ses disciples. Alors, suite à la première multiplication, vous vous souvenez peut-être, Jésus n'est pas allé dans la barque. Il a renvoyé ses disciples dans la barque, et puis lui, il est dans la montagne. Vous vous souvenez un peu de cette histoire-là. Mais ici, en fait, ce qui se passe, c'est que la foule ne veut pas faire Jésus roi. Donc, il n'a pas besoin de faire cette séparation avec ses disciples. Jésus est donc avec ses disciples, et il leur fait une recommandation, et il les aide à la comprendre, pour rester ou ne pas s'éloigner de la compassion. Jésus n'est plus avec la foule, il a quitté les pharisiens, le voici avec ses disciples, relisons les versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Vous ne saisissez pas et ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emporté? 12, répondirent-ils. Bon. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Que se passe-t-il ici? Jésus parle à ses disciples qui comprennent tout de travers. Alors Jésus va les aider à comprendre avec des questions pertinentes. C'est ce que Jésus fait ici, il utilise des questions pertinentes. Jésus vient d'avoir une rencontre avec les pharisiens et on pourrait dire que son soupir le poursuit. Il a soupiré face aux pharisiens. Et puis en fait, comme ce soupir le poursuit, ben il fait une recommandation à ses disciples. C'est lié, on peut bien le comprendre. Il va avertir ses disciples de se garder attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ailleurs, il est parlé des sadducéens. Sadducéens ou levain d'Hérode, c'est lié, parce que les sadducéens sont en fait un parti politique qui prenait position en faveur de l'occupant romain et d'Hérode. Pour ça que parfois on parle du parti d'Hérode ou des sadducéens. Et le levain est une illustration très intéressante. C'est quelque chose que l'on met en petite quantité dans une pâte et tout lève. Moi je trouve ça impressionnant, je ne sais pas si vous avez déjà fait du pain, faites du pain une fois. Puis vous mettez, mais c'est pas grand chose de levure et tout le reste là. Puis votre, c'est tout flasque, on met de l'eau, de la farine, du sel, du sucre, non, ça c'est pour la tresse, ça va être du lait. Puis c'est tout flasque, on attend, puis qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la pâte qui lève. C'est pas juste un petit bout d'un côté. Je sais pas chez vous, mais j'ai encore jamais vu un pain où il y a juste un tout petit bout qui lève et puis tout le reste, ça reste plat, quoi. Mais il y a soit tout qui reste plat, ça c'est autre chose, c'est quand le levain ne fonctionne pas. Le levain est l'image de quelque chose qui agit sans qu'on puisse l'arrêter. On peut pas l'arrêter non plus, le levain. Et que l'on ne remarque pas au départ. Ça, c'est l'image du levain. Le levain est l'image de quelque chose qui agit sans qu'on puisse l'arrêter et que l'on ne remarque pas au départ. Or, les disciples qui n'ont pas pris de pain avec pour tout le monde, il y avait un pain, ils étaient 13 dans la barque, il y avait un pain. Ils ont peut-être faim, ils se demandent qui pourra manger ce pain. Et voilà que Jésus parle de levain, ils ont peut-être mauvaise conscience, ils ramènent tout à ce qu'ils vivent eux. Et puis comme Jésus leur partage, quand Jésus leur partage la compassion de la foule, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent pas à ce que Jésus dit en fait. Ils s'intéressent uniquement à ce qu'ils vivent eux. Et ici, ils n'ont pas beaucoup de pain. Enfin, il y a un seul pain. Est-ce que ça sera Pierre, Jean ou Jacques qui va le manger? Ou peut-être Nathanaël? Ou peut-être Jésus, un petit bout quand même? Je veux dire, puis Jésus parle de l'un et dit, oh mince, il est en train de nous reprocher qu'on n'a pas pris assez de pain. Mais comme quand Jésus dit, j'ai la compassion pour cette foule, puis en fait, ils ne sont pas en train de dire, réfléchir à Jésus, ouais, c'est vrai qu'ils ont, ils ont vraiment besoin, est-ce que, comment tu vois la chose? Non, ils disent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans ce lieu désert? Il n'y a pas cette notion, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et avec le levain, c'est la même notion. Jésus parle de levain et eux parlent de pain qu'ils n'ont pas pris. Ils veulent résoudre les problèmes que Jésus ne leur demande pas de résoudre. Et le levain représente, alors là, c'est pas Marc qui nous aide à le voir, c'est les autres évangiles dans Matthieu et dans Luc. Le levain représente l'enseignement hypocrite des pharisiens. C'est ça le levain. On pourrait dire un enseignement sans compassion. C'est ça en fait. Le levain que les disciples doivent éviter, c'est un enseignement sans compassion. Et Jésus se rend compte que ses disciples n'ont pas saisi sa recommandation. Or il les questionne en trois étapes. Il fait trois étapes avec eux. Or premièrement il leur dit, mais pourquoi parlez-vous de pain? Or qu'est-ce qu'il veut leur faire comprendre en posant cette question? Eh bien, il veut leur faire comprendre qu'ils doivent se détacher des choses matérielles. Le pain, c'est quelque chose qui passe. On peut en avoir, je peux m'en faire. Il dit, j'en ai fait combien avec 5 pains, avec 7 pains, enfin, etc. C'est un principe biblique important qui est souligné ici, qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 4, 18, que plusieurs connaissent. Ainsi, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. D'ailleurs, dans tout le cheminement théologique de la Bible, on a vraiment ce cheminement, où on va toujours plus vers ce qui est éternel. Deuxièmement, il leur dit comme ça, mais vous ne saisissez et ne comprenez pas, vous saisissez pas ce que je vais vous dire. Et avec cette question, il veut aider les disciples à chercher à comprendre avant de donner une conclusion. Ils ont même pas cherché à comprendre ce que Jésus a dit. Oh, on n'a pas assez de pain. Puis Jésus dit, attendez, quand je vous dis quelque chose, cherchez d'abord à comprendre. Et ne raisonnez pas uniquement à partir de votre estomac ou de votre situation. Réfléchissez avec un désir du bien du royaume de Dieu. Et non du nôtre. Et ensuite, troisième étape, donc première étape, hein, il parle du pain, ensuite, est-ce que vous comprenez pas? Il fait cette notion de compréhension. Puis ensuite, il va leur parler du cœur endurci, des yeux et des oreilles qui ne voient ou qui n'entendent pas, et même de la mémoire qui fonctionne pas très bien. Dans cette troisième étape, Jésus touche à trois choses. Premièrement, le centre névralgique du raisonnement, de la volonté et du sentiment. C'est le cœur, en fait. Si nous n'arrivons pas à comprendre ce que Jésus dit, c'est vers le cœur qu'il faut aller. C'est qu'il y a une déficience au niveau du cœur. Il faut chercher la déficience au niveau du cœur ou demander à Dieu de réparer la déficience au niveau du cœur. Sinon, on ne va pas comprendre. Les disciples ne comprendront pas ce que Jésus dit s'il y a cette déficience. Deuxièmement, il parle des organes qui captent les informations. Nos organes qui captent les informations, c'est nos yeux et nos oreilles. Et d'ailleurs, vous les utilisez juste maintenant. Enfin, peut-être. Et ce sont des organes qu'il faut aussi particulièrement protéger, bien utiliser. Parce que vous savez ici que nous débordons de ce que nous nous remplissons. Et les yeux et les oreilles sont la manière par laquelle nous nous remplissons. Voilà pourquoi il est important de prendre soin à ce que les yeux et les oreilles captent. Donc là, Jésus aussi dit, ben voilà, il faut avoir cette attitude-là. Et troisièmement, les capacités de conserver les informations reçues, ou la mémoire. Jésus, en fait, il dit pas aux disciples, vous avez une mauvaise mémoire, tout va mal. Il leur rappelle simplement les choses. Il est bon, il est plein de compassion. C'est vraiment magnifique ici. Il leur rappelle les choses. Et pour nous, c'est important d'avoir des moyens qui nous rappellent les choses. Nous sommes oublieux, c'est normal. On aimerait être beaucoup moins. C'est pour ça que Dieu veut que nous nous rappelions les choses qu'il a faites pour qu'on puisse se souvenir de ses œuvres, de sa compassion. Donc le cœur, les organes qui captent, donc les yeux et les oreilles et la mémoire, sont trois éléments clés de notre vie chrétienne. Et c'est important de bien les remplir, de les garder fidèles aux enseignements de Jésus. Alors quelques éléments qu'on peut apprendre de ce petit voyage de Jésus avec ses disciples. Alors premièrement, il dit... Attention au levain. Attention au levain. Par exemple, dans l'écologie, c'est super de faire attention à la nature, mais le levain, c'est l'adoration de Gaïa. Par exemple, dans le féminisme, c'est super de promouvoir le respect de la femme et aller contre le royaume de l'homme, mais le levain, c'est le royaume de la femme qui remplace le royaume de Dieu. Par exemple, la pensée positive, c'est super de relever tout ce qui est bien, mais le levain, c'est de penser que l'on peut s'en sortir sans l'aide extérieure de Jésus-Christ et uniquement par sa pensée. Par exemple, dans la pensée évangélique moderne, c'est super de chercher une relation proche de Dieu, mais le levain, c'est de penser que ce sont nos sentiments qui définissent notre salut ou notre maturité. Bon, vous pourrez continuer la liste tout à l'heure. Hein, en discutant les uns avec les autres. Et que Dieu nous aide à nous garder de ce levain. Pour éviter le levain, nous devons nous attacher à ce qui est éternel, concentrer sur Jésus-Christ, car nous avons un appui solide en notre roi sauveur. Pour éviter le levain, nous sommes appelés à chercher à comprendre, pas simplement à rester sur des stéréotypes ou des caricatures. Pour éviter le levain, le cœur, les oreilles, les yeux et la mémoire sont à prendre soin. Si Christ ne transforme et ne purifie le cœur, ne remplit les yeux et les oreilles et active la mémoire pour nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous, s'il ne le fait pas, on n'est pas très bien. C'est donc important de le lui demander et il va le faire parce qu'il est rempli de compassion. Et par rapport à notre salut, on peut se poser la question, avez-vous le cœur endurci? Ne voyez-vous pas le péché en vous? Vivez-vous dans la désobéissance ou l'obéissance? Êtes-vous baptisé? Vos yeux sont-ils fermés? Vos oreilles bouchées à l'appel de Christ? Ou l'avez-vous déjà entendu? Vous souvenez-vous de l'œuvre du salut à la croix où Jésus a pris la place du pécheur repentant? En fait, je fais que refaire les trois éléments que Jésus a fait avec ses disciples. Que le Seigneur nous donne cette grâce de saisir sa compassion. Je comprends pas tout. N'ayez pas peur. Il est compatissant. Allons vers lui. Je veux vivre une vie qui le glorifie. Évite les enseignements qui n'ont pas de compassion et vis d'une manière compatissante. Jésus a compassion. C'est pourquoi les païens sont aussi appelés et nous sommes ici ce matin. Jésus soupire face à ceux qui n'ont pas compassion. C'est pourquoi nous soupirons aussi face au péché et à la dureté dans notre vie et celle des autres. Non pas pour tomber sur les gens, mais pour nous en repentir, nous en détourner et exercer la compassion. Et Jésus recommande d'éviter tout enseignement qui n'a pas de compassion. C'est pourquoi nous cherchons à comprendre ce que lui nous dit et nous cherchons à lui obéir. Nous allons prier pour terminer. Éternel, notre Dieu, ta compassion dépasse ce qu'on peut imaginer. Et cela dérange bien des personnes. Comment est-ce possible qu'un Dieu puisse autant pardonner, puisse avoir autant de grâce? C'est pas juste, diront certains. Mais quelle terrible pensée de voir la compassion de cette manière-là. Parce que si il n'y avait que la justice sans compassion, nous ne serions pas ici. Éternel, nous sommes heureux ce matin que ta compassion nous dépasse. Nous sommes heureux que tu aies ce Dieu qui, malgré les disciples qui se disent « Ouais, ben, faut pas donner le pain aux petits chiens », eh bien, toi, tu nourris 4000 personnes devant eux pour leur montrer, mais les amis, le salut, c'est pour eux aussi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir d'attitude vers quiconque, de penser que cette personne ne peut pas recevoir le salut. Nous ne voulons pas lui parler du salut. Non, Seigneur, donne-nous cette attitude de compassion que Jésus nous montre dans ce texte, pour le monde entier. Et j'aimerais, Seigneur, te prier aussi de nous donner la grâce d'avoir de la sagesse et du discernement. Parce qu'il y a des enseignements qui nous détournent de la compassion. Et j'aimerais te prier, Seigneur, de nous aider à être capables de les discerner, pour nous détourner de ces enseignements-là, mais pas pour nous détourner des bonnes choses qui parfois sont emmêlées avec les mauvaises. J'aimerais, Seigneur, te prier vraiment de nous guider et de nous donner la joie de vivre cette compassion et de parfois nous poser des questions à nous-mêmes et les uns aux autres pour nous aider à nous souvenir qu'il est important de vivre cette compassion. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.